Oui, il risque d'être très violent. Oui.
Merci Anissa Dadi. Bon réveil avec Europe 1. Voici votre journal. Europe 1, il est 5h.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire.
L'information de la nuit, Israël a frappé Téhéran. L'État hébreu en état d'urgence. Il s'attend à des représailles après ses frappes contre l'Iran. Dans son viseur, des dizaines de sites nucléaires iraniens. Une menace jugée imminente par le gouvernement israélien. Le chef de l'état-major iranien aurait été tué dans cette opération. Europe 1 en direct de Tel Aviv, dès le début de ce journal. Le collégien qui a poignardé mortellement une surveillante du collège de Nogent en Haute-Marne mardi a été mis en examen pour meurtre, placé en détention provisoire hier au terme de sa garde à vue. Dans l'établissement, le retour en classe a été douloureux hier. Reportage Europe 1 à suivre. Et puis le début des épreuves du bac dans 3 jours maintenant. Alors comment organiser cette dernière ligne droite? Réviser jusqu'à la dernière minute ou bien souffler un peu? Les conseils d'Europe 1 dans un instant. Le journal de 5h, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. L'opération s'appelle Rising Lion en anglais, le lion qui se dresse. C'est ainsi qu'Israël a baptisé sa mission d'éradication de la menace nucléaire iranienne. Cette nuit, Tsahal a mené ses premières frappes contre des sites militaires de Téhéran. Bonjour Frédéric Simon.
Bonjour, bonjour à tous.
Un correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv en direct avec nous. Israël est en état d'urgence désormais, dans l'attente des représailles iraniennes après les frappes de cette nuit, Frédéric.
Oui, Israël se prépare à une riposte cinglante de la part de l'Iran. L'état d'urgence a été décrété dans tout le pays et il est recommandé aux Israéliens de rester à proximité des espaces protégés. L'opération menée par Israël seul, sans l'appui de l'armée américaine, a débuté au milieu de la nuit. Plusieurs dizaines d'avions de chasse ont frappé des sites liés au programme nucléaire de l'Iran, notamment la centrale de Natanz. Des entrepôts de missiles ont été visés également, des centres de commandement et aussi, semble-t-il, des résidences privées de membres importants du régime des Mollahs. Des opérations de sabotage au sol menées par les services secrets israéliens ont accompagné ces frappes. Le général Hussein Salami, numéro 1 des gardiens de la révolution, le corps d'élite de l'armée iranienne, a été tué. L'information est d'ailleurs confirmée officiellement en Iran. Les responsables israéliens estiment qu'il y a de fortes chances que la totalité des généraux de l'état-major iranien ont été éliminés, eux aussi, tout comme 2 scientifiques importants impliqués dans le programme nucléaire. Ce sont d'ailleurs les avancées de ce programme nucléaire qui justifient cette offensive aux yeux des dirigeants israéliens. Selon Benjamin Netanyahou, Téhéran a pris des mesures inédites au cours de ces derniers mois pour obtenir des capacités nucléaires offensives. L'Iran disposerait de suffisamment de nucléaire, d'uranium enrichi, pardon, pour fabriquer 9 bombes. Il se serait doté d'un arsenal considérable de missiles balistiques.
Merci beaucoup Frédéric Simon en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Ces frappes israéliennes contre Téhéran ont été menées, vous le disiez, sans les États-Unis. Un revers pour Donald Trump qui voulait prioriser les échanges diplomatiques avec l'Iran, mais aussi et surtout la protection de ses forces au Moyen-Orient. Hier, le régime des Mollahs avait menacé de cibler les bases américaines de la région si les négociations avec Washington venaient à échouer. Décryptage à 5h30 avec le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Et nous reviendrons effectivement largement tout au long de cette matinée sur Europe 1 sur ces frappes d'Israël contre l'Iran, des frappes sans précédent contre la capitale Téhéran et des installations nucléaires. Des dizaines d'avions de chasse ont été engagés cette nuit. Les États-Unis, où le déploiement de la garde républicaine à Los Angeles, Fanny, a été suspendu cette nuit.
Décision d'un juge fédéral qui a déclaré que l'envoi de 4 000 réservistes en Californie était illégal, affirmant que le président américain n'avait pas suivi la procédure requise par le Congrès. La Maison-Blanche a déclaré faire appel.
Vous écoutez Europe 1, bonjour, il est 5h03.
Il s'appelle Quentin, il a 14 ans et il vient de passer sa première nuit en détention provisoire, désormais mis en examen pour meurtre.
Le meurtrier présumé de Mélanie, 31 ans, cette assistante d'éducation qu'il a poignardé devant témoin à 7 reprises mardi matin à l'entrée du collège Françoise Dolto de Nogent en Haute-Marne. L'établissement a rouvert ses portes hier aux élèves, mais les cours n'ont pas réellement repris. Au programme, des jeux, des moments d'échange, une cellule psychologique également pour ceux qui en ressentaient le besoin. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Nogent. Jean-Mélina Fachin.
Difficile pour de nombreux élèves de franchir hier matin les portes de leur collège. Les dizaines de fleurs accrochées aux grilles témoignent du drame qui s'est déroulé ici mardi. Certains enfants ont préféré rester chez eux.
C'est sûr qu'avec ce qui s'est passé mardi, c'est pas évident pour nous.
Mais une bonne partie des élèves, comme Inès, scolarisée en 6e, avait envie de se retrouver.
On était tous contents quoi, de venir quand même, malgré ce qui s'est passé mardi. Il y avait plusieurs professeurs qui nous aidaient à faire des activités. Par exemple, moi, j'étais avec une prof de français et on a fait des jeux de société, des dessins, tout ça, plein de trucs.
Pour ceux qui le souhaitaient, la cellule psychologique était toujours en place. Clément, lui, a plutôt essayé de se changer les idées.
On essaye, pas trop en parler. C'est compliqué, on essaye de se reconstruire soi-même. On essaye d'oublier. Mais on aborde d'autres sujets. Et il y a eu... une minute de silence pour cette journée.
Cet après-midi, à 18h, une marche blanche est organisée en mémoire de Mélanie, qui laisse derrière elle un petit garçon de 4 ans. Elle démarra ici, devant le collège où elle s'est effondrée mardi. Nos gens, Mélina Fachin, Europe 1.
Le chantier de l'A69 est-il devenu une zone de non-droit alors que les travaux doivent reprendre dans quelques jours, comme l'a décidé la justice? Les entreprises qui œuvrent au tracé de cette autoroute sont actuellement menacées.
Oui, elles ont carrément une cible dans le dos. Un groupuscule d'extrême gauche vient de publier une liste des sites ou administrations à viser pour nuire au chantier. Et alors qu'une manifestation des opposants est prévue dans 3 semaines, tous les chefs d'entreprise qui gravitent autour de ce projet redoutent le pire. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Tarn, Charles Lullier.
Ce sous-traitant qui souhaite garder l'anonymat tient la liste des entreprises placardées par le groupuscule sur les réseaux sociaux. La sienne fait partie des sites visés.
Mais voilà, vous voyez sur cette carte toutes les cibles à attaquer. Des sous-traitants, des mairies, le commissariat de police. Aujourd'hui, ils admettent qu'ils sont des terroristes.
Un groupuscule qui, en effet, sur sa page, se définit comme éco-terroriste, mais aussi pro-palestinien et anarchiste. Les membres appellent un rassemblement anti-A69 ici, avec un discours très séditieux.
Ils disent « on vous veut nombreux, organisés ». Et enragé. Il faut que les gens viennent avec du matos, des masques et la rage au ventre. Peut-être qu'à un moment donné, on va s'organiser et qu'il y aura de la riposte.
Une riposte que prépare déjà cet autre chef d'entreprise.
Les ZAD, aujourd'hui, il n'y en a plus. Ils menacent d'en refaire d'autres. On va s'intéresser à tous ceux qui accueilleront les ZADistes sur leur propriété. On saura les retrouver. Ils veulent déclencher la guerre à notre département. S'ils déclenchent la guerre, on l'aura. Tout le monde en a plein le dos de cette racaille extrême gauche qui vient nous pourrir la vie.
Des opposants qui, d'ailleurs, viennent d'incendier 2 ouvrages près de la future autoroute. Il y a donc urgence à quelques jours de la reprise du chantier ici.
Et à quelques jours désormais du bac également, l'épreuve anticipée de français a lieu aujourd'hui pour les élèves de première et le compte à rebours est lancé pour les terminales, Fanny.
Et oui, un mois après le bac pro, les séries générales entrent dans la danse. Traditionnelle épreuve de philo prévue lundi avant de plancher sur les spécialités. Il reste donc un week-end pour être fin prêt. Mathis Lang, comment bien gérer ces dernières révisions?
Eh bien d'abord, il ne faut pas se voiler la face, on ne rattrape pas des mois de cours en l'espace d'un week-end. Il faut donc éviter à tout prix de s'éparpiller, conseille Charles Braverman, professeur de philosophie.
Plutôt que de faire des révisions un peu aléatoires en cherchant des citations à apprendre par cœur, etc., il faut vraiment se concentrer sur les concepts fondamentaux et puis surtout faire des révisions actives, c'est-à-dire très concrètement construire de nouveaux plans et puis écrire des paragraphes pour contrôler la maîtrise des concepts et des arguments.
S'il ne faut pas complètement lâcher son stylo et ses fiches ce week-end, pour Philippe Roire, professeur d'histoire, il faut réviser d'une manière plus légère que le reste de l'année.
On peut faire en regardant sur Internet des petites fiches de révision, des petits quiz sur Internet. On peut prendre ces fiches de révision et puis aller à la piscine. Et puis on peut se mettre à une terrasse de café à l'ombre et puis revoir ces fiches également.
Travailler en groupe entre camarades est également une bonne option. Enfin, dernier conseil, revoir la méthodologie, trop souvent négligée. Mal la maîtriser, c'est l'assurance de perdre des points au moment des épreuves.
Mathis Lang.
Merci Fanny Marceau, il est 5h08 ce vendredi matin sur Europe 1. Votre programme du week-end, Jacques Vendroux et le service des sports d'Europe 1 vous attendent. Ils vous donnent rendez-vous chaque vendredi de 21h à 22h pour le studio des légendes, Anissa.
Et ce soir, écoutez bien, 2 présidents dans le studio des légendes. Gilles Moreton, président de la Fédération française de tennis. On va faire le bilan de ce Roland-Garros avec Loïse Boisson, entre autres, qui nous a fait rêver. Je vous rappelle qu'Europe 1 est la radio officielle du tournoi. Et Patrice Martin, président de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard, 2 présidents au même endroit. Ça se passe ce soir, 21h-22h, le studio des légendes avec Jacques Vendroux.
Voilà, riche programme qui vous attend. Merci d'être avec nous ce vendredi 13 juin.
Il est 5h09, vous écoutez Europe 1 Bonjour avec Alexandre Lemaire et dans quelques instants, la revue de presse internationale.
Oui, nous serons en particulier en Irlande du Nord qui traverse plusieurs nuits d'émeutes anti-immigration. D'abord, les courses sur Europe 1, c'est votre pari gagnant Thierry Légier, bonjour.
Bonjour Alexandre, il y aura des courses en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Et mon pari gagnant sera le 109 Impala de Val, irréprochable depuis de nombreux mois et alignant les succès depuis le début de sa carrière, puisqu'il totalise pas moins de 19 victoires pour 45 tentatives. Je le sais toujours, dans une condition physique optimale le matin à l'entraînement, et on peut considérer que ses limites actuelles restent à déterminer. Notez bien, pour ce soir à Vincennes, réunion 1. Dans la première course, le numéro 9, Impala de Val.
Merci Thierry Léger. Vous revenez après le journal de 5h30 sur Europe 1 avec vos pronostics du Quintet. Juste après la revue de presse internationale, à suivre votre histoire dingue, Anissa Haddadi.
Voilà, c'est l'histoire ce matin de l'une des plus grandes arnaques aériennes où comment un homme a réussi à voyager 120 fois sur des avions de ligne sans jamais rien payer.
5h-7h, Europe 1 bonjour.
5h10 sur Europe 1, Alexandre Lemaire.
Avec votre revue de presse internationale, nous partons d'abord aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi.
Bonjour.
Vous êtes à Washington pour Europe 1. Rémi, qu'est-ce qui fait la une des médias américains ?
Les manifestations contre les arrestations de migrants s'intensifient aux États-Unis et pour les médias conservateurs, le chaos est imminent. Selon le Wall Street Journal, ces mobilisations ne visent plus simplement l'ICE, la police de l'immigration américaine. Elles revendiquent désormais la chute de l'administration Trump. Les manifestations ont démarré la semaine dernière à Los Angeles et en quelques jours, elles se sont propagées dans de nombreuses villes américaines. Par exemple, Seattle, San Francisco, Dallas, Chicago, Washington et New York. À New York, justement, le New York Post s'émeut des manifestations chaotiques et radicales qui touchent la ville. Pour le journal, les mobilisations n'ont rien de spontané et seraient coordonnées par plusieurs groupes liés à l'extrême gauche américaine. Enfin, Fox News va plus loin et ne parle désormais plus de manifestations, mais d'émeutes. La chaîne conservatrice accuse également les démocrates d'avoir financé des associations qui seraient à l'origine des premières manifestations en Californie.
Nous sommes maintenant en Irlande. Clémence Pénard, vous êtes à Dublin pour Europe 1. Les gros titres de la presse irlandaise.
Eh bien, les émeutes anti-immigration en Irlande du Nord. Depuis lundi soir, la ville de Ballymena, située à une heure de route de Belfast, la capitale, est le théâtre de graves troubles. Les émeutiers s'en sont pris violemment aux forces de l'ordre, utilisant tout ce qu'ils avaient à portée de main, briques, cocktails Molotov ou encore feux d'artifice. Au total, 32 policiers ont été blessés, rapporte The Belfast Telegraph. Ces violences ont éclaté à la suite d'une manifestation organisée après l'agression sexuelle présumée d'une jeune fille. Deux adolescents d'origine roumaine accusés de tentative de viol comparaissaient lundi devant un tribunal selon la RT. Depuis, les tensions se sont cristallisées autour de la question migratoire. Des maisons appartenant à des personnes issues de l'immigration ont été vandalisées et désormais, dans l'espoir d'échapper aux attaques, certains habitants accrochent, comme le décrit The Guardian, des drapeaux britanniques à leurs portes.
Nous partons enfin au Liban avec la correspondante d'Europe 1 à Beyrouth, Inès Gilles. De quoi parlent les médias chez vous ?
Eh bien, on parle du possible départ des casques bleus. Selon Al Monitor, les États-Unis chercheraient à réduire les coûts liés au fonctionnement de la FINUL, la force de maintien de la paix, tandis qu'Israël estime que sa coordination avec l'armée libanaise est suffisante et rend inutile la présence de l'ONU. Les casques bleus sont postés au Liban depuis 1978, mais ils sont critiqués car ils n'ont pas freiné les bombardements israéliens et n'ont pas empêché le Hezbollah de tirer des missiles pendant la guerre. Selon le média Watan, le Conseil de sécurité des Nations Unies devraient prendre une décision sur leur avenir en août prochain. Mais d'après L'Orient Le Jour, la fin de la FINUL marquerait un saut dans l'inconnu. Les responsables libanais ont de concert exprimé leur soutien au casque bleu, mettant en garde contre toute décision qui aurait des conséquences néfastes sur la sécurité dans le sud Liban.
Inès Gilles, correspondante d'Europe 1 au Liban.
C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Il est 5h13, excellent vendredi à tous. À suivre à 5h20 les initiatives en France avec vous Alexandre Lemaire.
Et avec une solution pour purifier l'eau de votre robinet. Je ne sais pas si vous trouvez qu'elle a mauvais goût chez vous à la maison,
Anissa. Parfois, ça sent la Javel.
Oui. Voilà, ça enlève l'odeur, effectivement, le goût de la Javel, du chlore. Ça retire même les polluants éternels, nous dira son créateur, qui vous explique tout dans deux minutes. Dans un instant, votre histoire dingue, Anissa. A tout de suite.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko.
7h-9h, Europe 1 matin.
Écoutez, Europe 1, c'est être libre. Libre de s'informer. Cet entrisme qui pourrait faire basculer toute la société française dans la charia.
Nous sommes la patrie de l'esprit critique, des lumières et des droits de l'homme. Donc nous sommes en première ligne et c'est pour ça que nous sommes attaqués.
Cet entrisme instrumentalise beaucoup de nos compatriotes de confession musulmane en leur disant vous êtes des victimes.
Nous ne répondrons pas aux défis que nous lancent les frères musulmans par un nihilisme d'État.
Europe 1, la radio libre.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
À tout à l'heure, 7h-9h sur Europe 1.
Genibet.fr, site de paris hippiques et sportifs. Les meilleurs rapports sur les paris simples. Votre ticket à partir de 10 centimes et un bonus de bienvenue jusqu'à 250 euros. Et à l'occasion du prix de Diane, profitez de 10 euros de bonus hippique supplémentaire avec le code RADIO10. Voir conditions sur Genibet.fr. Mise de base à partir de 10 centimes sur la gamme de paris hors paris simple, montant minimum du pari 1 euro. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non sur taxé.
Europe 1.
Bienvenue si vous nous rejoignez à 5h15 sur Europe 1. Anissa Dadi, l'histoire dingue que vous nous racontez ce matin, je crois qu'elle va parler à de nombreux auditeurs qui sont certainement ces jours-ci en train de réserver leur billet d'avion, leur billet de train pour les vacances d'été.
On est tous dans le même cas là, hein. Le mois de juin c'est un peu compliqué. Et quel budget le transport ? Imaginez si on pouvait voyager, parcourir le monde sans débourser le moindre euro. Ce serait un rêve, hein. Bon, et ben ce rêve, il est devenu réalité pour un Américain de 35 ans qui a en tout voyagé pendant 6 ans, 120 fois en avion.
Rien que ça.
Bonjour le bilan carbone. Oui. Sans jamais payer un seul billet.
Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord, ladies and gentlemen, this is captain qui parle to you.
Qui parle to you. 120 fois sans payer ses trajets d'avion, vous nous dites, mais alors, c'est comment c'est possible? Il avait son jet à lui, privé?
Non, Alexandre, non, c'est un citoyen vraiment comme vous et moi, sans aucun brevet de pilotage, sans jet, pas du tout riche, sans aucun passe-droit. Il a juste réussi à mettre en place un stratagème très malin pour pouvoir voyager gratuitement sur des avions de ligne. Alors, je vous explique.
Ah bah oui.
Tyrone Alexander, qui est bien plus fort en informatique que vous et moi,
c'est possible,
a réussi à infiltrer le système de réservation des billets d'avion qui est d'habitude réservé uniquement aux employés des compagnies aériennes, qui, eux, comme vous le savez, voyagent gratuitement.
Oui.
Donc, pendant 6 ans, entre 2018 et 2024, il a donc réussi à 120 reprises à se faire passer pour un steward en utilisant une trentaine de faux numéros de badge, en inventant de fausses dates d'embauche dans 7 compagnies aériennes différentes. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai tout de suite pensé au personnage interprété par Leonardo DiCaprio.
Évidemment.
Eh oui, dans Attrape-moi si tu peux.
Qui est d'ailleurs basé sur une histoire vraie. Hein.
Exactement, un arnaqueur.
Un cinglé se balade en avion en se faisant passer pour un pilote. On l'appelle James Bond du ciel.
Bon, on a bien compris qu'il s'agissait d'une fraude. Une fraude incroyable, en tout cas, que vous nous racontez là ce matin, Anissa Dadi. Ça veut donc dire que ce Tyrone Alexander a finalement été démasqué.
Oui, il a été démasqué il y a quelques semaines. Je vous laisse imaginer les vives inquiétudes des compagnies aériennes à la révélation de cette histoire. Car si Tyrone Alexander avait eu des intentions criminelles, ça aurait pu être un drame, ce qu'il a fait quand même.
Oui.
Donc, son procès a eu lieu la semaine dernière. C'était le 5 juin aux États-Unis. Tyrone a été reconnu coupable de fraude électronique et d'entrée illégale dans une zone sécurisée d'un aéroport sous fausse identité. Le verdict de son procès sera rendu le 25 août et Tyrone risque jusqu'à 30 ans de prison fédérale.
Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer.
30 ans de prison, alors avis aux amateurs, aux arnaqueurs en herbe. Hein.
Payez vos billets cet été.
Payez son billet d'avion. Vous avez raison d'avoir choisi Johnny, parce que c'est vrai qu'on lui rend hommage ce matin sur Europe 1. Johnny Hallyday, chers auditeurs, qui aurait fêté ce dimanche 15 juin ses 82 ans. Nous rendrons hommage à Johnny tout à l'heure avec les enfants d'Europe 1 à 5h40 avec Laure d'Autriche. Votre histoire dingue. Merci Anissa Dadi.
Avec plaisir.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h. Alexandre Lemaire.
Europe 1, bienvenue, 5h17, le journal permanent, Fanny Marceau.
De nouvelles explosions entendues à Téhéran ce matin après les premières frappes israéliennes de la nuit. Une dizaine de sites militaires et nucléaires ont été visés, l'État hébreu jugeant que les quantités d'uranium enrichi aux mains des Mollahs représentent une menace imminente. Le chef de l'état-major iranien a été tué durant cette opération, baptisée Rising Lion, le lion qui se dresse. Le guide suprême iranien menace désormais Israël d'un sort amer et douloureux, Israël qui a déclaré l'état d'urgence. Ces frappes israéliennes contre Téhéran mené sans les États-Unis, un revers pour Donald Trump après des mois d'échanges diplomatiques avec l'Iran. Le président américain tient surtout à protéger ses forces au Moyen-Orient. Hier, le régime des Mollahs avait menacé de cibler les bases américaines de la région si les négociations avec Washington venaient à échouer. On décrypte tout ça à 5h30 avec le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le collégien qui a poignardé à mort une surveillante du collège de Nogent mardi a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire hier au terme de sa garde à vue. Clap de fin aujourd'hui pour le sommet mondial sur les océans à Nice. Une semaine d'échanges avec une soixantaine de dirigeants du monde entier qui s'achève sur une avancée, la signature saluée par les ONG du traité sur la haute mer qui vise à mieux la protéger. Il a été ratifié par une cinquantaine de pays mais sans promesse de financement de grande ampleur. Et puis Europe 1 rend hommage aujourd'hui aux Beach Boys après la mort de leur cofondateur Brian Wilson. On a retrouvé dans nos précieuses archives un magnifique concert Europe 1 Musicorama du groupe californien datant de 1969, une pépite, moment d'anthologie à retrouver en podcast dans l'onglet 70 ans d'Europe 1 sur europe1.fr et l'appli Europe 1.
Merci Fanny Marceau.
Juste avant le journal de 5h30, dans une dizaine de minutes sur Europe 1, vous allez écouter ce matin Chabouzi et Miles Smith.
Oui, deux artistes, un Anglais et un Américain se retrouvent et ensemble ils ont réalisé le titre qui va vous accompagner tout cet été, j'en suis sûre. Blink Twice, qu'on va écouter dans un instant.
D'abord 5h19, les initiatives en France sur Europe 1 avec une solution ce matin pour purifier l'eau de votre robinet. Bonjour Pascal Nuti.
Bonjour Alexandre.
Vous êtes le cofondateur et le directeur de l'innovation de Solable. Solable, c'est une start-up installée dans la région d'Aix-en-Provence. Alors votre spécialité à vous, c'est la purification de l'eau. Votre gamme de purificateurs, je crois, c'est comme une fusée à étages. C'est-à-dire qu'on va s'équiper de tel ou tel selon les polluants que l'on souhaite éliminer.
Oui, voilà. Nous, en fait, on a découvert il y a une dizaine d'années et breveté une solution pour transformer l'eau du robinet à la maison en eau qualité supérieure, je dirais, égale à supérieure à une eau en bouteille de premium, quoi.
C'est un système qui est capable d'éliminer désormais quasiment toute source de pollution qui passe dans l'eau. Les polluants éternels, les PFAS, comme on dit, les PFAS, oui. Il y a les métaux lourds, il y a effectivement les microplastiques. Alors dites-nous, voilà, comment ça se présente à la maison, votre système, comment je l'installe, ça ressemble à quoi et ça se passe où? Sous l'évier, sur le robinet directement?
Très discret, il y a une partie qui se met sous le robinet, effectivement, qui est la pré-filtration et qui va vous permettre de cuire vos pâtes sans les PFAS et de remplir vos bouteilles d'eau pour les mettre ensuite dans nos purificateurs. Et donc, vous avez un purificateur qui est un tube d'aluminium anodisé qui se pose sur, par exemple, un plan de travail de cuisine qui est intégré au niveau esthétique et qui est tout petit, puisque c'est la taille d'une bouteille plus un millimètre, on va dire. Et là-dedans, vous allez faire glisser vos bouteilles remplies d'eau au robinet en verre, de laboratoire. Et donc, elles vont être automatiquement insolées du VA pendant 15 minutes. Et donc, vous pouvez les remettre après au frigo ou sur la table et en traiter autant que vous voulez dans la journée, bien entendu. Ce qui fait que vous avez une source d'eau pure à volonté chez vous.
Oui.
Et ça reste très petit et ça consomme très, très peu d'énergie. Il faut le relier au secteur puisque... la lumière UV, ça mange quand même un peu d'électricité, mais c'est genre 1 euro les 1000 litres traités. Quoi.
Bon, mais alors pour bien comprendre, est-ce que c'est un système qui se raccorde à la tuyauterie ou pas uniquement?
Non, il y a la pré-filtration qui est raccordée à la dernière tuyauterie avant le robinet d'eau froide.
Voilà, il y a deux choses. La pré-filtration, elle est sur les tuyaux. Hein,
voilà, et là, il faudra changer un filtre tous les 6 mois.
Oui.
Donc ça, c'est malheureusement, on n'a pas pu résoudre sans filtre ces polluants-là.
Oui.
Et l'autre partie, elle est sur le plan de travail et connectée à l'électricité avec un petit adaptateur. Et elle, elle n'a pas besoin ni d'entretien ni de consommables. Donc, vous pouvez traiter toute l'année.
Alors, c'est-à-dire, pour traiter l'eau, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut passer par les deux systèmes?
Non, il y a des gens qui passent que par l'un ou que par l'autre. D'abord parce que les PFAS, par exemple, tout le monde n'est pas encore complètement réveillé sur le sujet. Donc, et en particulier, il faut quand même savoir qu'ils ne sont pas mesurés aujourd'hui.
Mais
donc, les Français n'ont pas l'information qu'ils sont en train d'en boire en ce moment même.
Oui.
Nous, on a un peu les spécialistes de l'eau parce qu'on a fait un peu des prélèvements au hasard et on sait qu'il y en a à peu près dans des...
Oui, mais vous nous dites qu'ils ne sont pas mesurés, Pascal Nuti, mais moi je me pose une autre question. Comment mesurer en effet l'efficacité dans ce cas-là de votre système? Comment s'assurer que... Oui.
C'est une excellente question. En fait, on travaille avec un laboratoire AMUS-CNRS, AMUS, l'Université Aix-Marseille, et c'est lui qui détermine ça, c'est pas nous. Et donc là, par exemple, on a dosé à 1000 fois la quantité de PFAS dans un essai qui a été fait il y a deux semaines. C'est compliqué de mesurer les PFAS. Et on abat 70% dans une quantité qui est supérieure à
70%. 70%.
Ouais, bon. Non, on sera plutôt à 90% au final, puisqu'on va refaire un test avec la quantité normale. Là, c'était pour aller vite.
Oui.
Je pense qu'on sera plus près de 90-95%.
Dites-moi, combien ça coûte tout ça? Parce que c'est un système. Alors, déjà, pour terminer sur l'installation, pas besoin de plombier. On fait ça tout seul.
Non, il faut être capable de démonter le flexible du robinet.
A priori, c'est pas insurmontable. La question du prix, on voudrait savoir combien ça coûte tout ça.
Ça coûte 150 euros pour la partie qui est sous évier Mais c'est un kit complet, quoi, avec le filtre et le porte-filtre et les, enfin, tout ce qui est raccordement. Et donc, par contre, après, ça vous coûtera 40 euros tous les 6 mois de changement de filtre.
Voilà, c'est tous les 6 mois. Il faut changer 2 fois par an avec une consommation, on va dire, moyenne d'un foyer à la maison.
Ça a été mesuré par le labo. Par contre, on a fait une fois et demie la conso pour être sûr de pouvoir affronter l'endroit où il y a le plus de pollution en France.
Bon, et ce qui est intéressant, vous poussez la logique jusqu'au bout, vous insistez également sur votre ambition écologique, c'est-à-dire que vos purificateurs, ils sont pensés pour avoir le minimum d'impact sur l'environnement. Moi, quand ma recharge elle est terminée, je la mets pas à la poubelle, je vous la renvoie, vous me l'échangez.
C'est ça, et moi je la recycle, tout à fait, oui. On est le premier filtre consigné au monde.
Et donc, on n'est pas obligé, encore une fois, d'avoir les deux systèmes. On choisit à la carte, en quelque sorte, parmi votre gamme de produits, les polluants dont on veut se débarrasser dans son eau du robinet.
Oui, on peut complètement commencer, par exemple, par une préfiltration, et puis un jour décider de passer l'étage au-dessus pour améliorer encore la finesse et la pureté de l'eau. Mais on n'est pas obligé d'acheter les deux en même temps. Et donc, pour conclure, le purificateur à lumière UVA, lui, il coûte 150 euros en moyenne.
Alors voilà, vous nous rappelez le nom de vos produits et puis comment les trouver, comment se les procurer ?
Alors, ça s'appelle La Vie. La Vie comme
comme La Vie, oui.
Voilà, exactement. Et le site, c'est lavie.bio, lavie.bio. Et là-dessus, vous avez tout, la description, les articles scientifiques, la boutique en ligne et les explications de la technologie au mieux.
Voilà.
Et au plus simple.
Lavie.bio. Pascal Nuti, merci, cofondateur et directeur de l'innovation de Solable, cette start-up donc, qui commercialise ses purificateurs d'eau pour la maison. Merci à vous.
Merci beaucoup, Alexandre. Bonne journée.
Heure Tain, bonjour.
5h, 7h.
Alexandre Lemaire.
Il est 5h25. Bon réveil avec Europe 1. Dans quelques minutes, le journal de Christophe Lamarre. D'abord, un réveil en musique, Anissa Dadi.
Oh là là, avec un titre qui s'appelle Blink Twice, retenez-le. C'est un titre qui réunit le chanteur anglais Miles Smith et le chanteur et rappeur américain Shabuzei. Bienvenue sur Europe 1. Voici le tube de l'été 2025.
Would you tell me why I'm worn down to the bone? Even though I've only seen half of the world, I'm coming home. Hanging on to hope, I'm losing grip of time and space. Mind is running circles over something I can't change. I've looked, I've tried, no one told me when it's wrong. Am I feeling all the feelings or am I just going numb? I tried everything I thought that I may need. I've been trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried, and way too much to drink. But I won't let my life drown in that old kitchen sink.
Et bien depuis que Beyoncé a refait de la country, on a l'impression que la country est vraiment très à la mode. Hein. Ça, c'est le titre qui risque de vous accompagner dans les prochaines semaines. Blink Twice avec le chanteur Miles Smith et le rappeur Shabuzei sur Europe 1.
Europe 1, bienvenue à tous. À suivre dans la prochaine demi-heure, Anissa, le Club Culture Europe 1, 6h-10, le livre audio de la semaine.
Oui, chaque vendredi, Nicolas Caro vous présente un livre audio du catalogue Audible, celui de l'américaine Emma Klein ce matin, The Girls.
Mon invité après le journal sera le sénateur communiste écologiste Yann Brossa. Il porte une proposition de loi pour pérenniser l'encadrement des loyers. Ne pas le faire serait une catastrophe pour le budget des Français, assure Yann Brossa. Il sera avec nous à 6h20. D'abord, le temps. Anissa Dadi, une chaleur étouffante aujourd'hui sur tout le pays et des orages attendus en fin de journée.
Oui, chaleur étouffante, c'est le moins qu'on puisse dire. 38 degrés à Auxerre, en Bourgogne aujourd'hui, 37 à Montluçon, à Brive-la-Gaillarde et à Vesoul, 36 à Périgueux-Châteauroux et Metz, 35 degrés pour Clermont-Ferrand et Lyon. Et on le sait, hein, Clermont-Ferrand, c'est une cuvette, donc ça va être difficilement respirable. 34 pour Paris, 33 à Nîmes et Saint-Étienne, 33 à Nantes, 31 degrés à La Rochelle. Il fait quasiment plus de 30 degrés partout, sauf dans le nord-ouest, Alexandre, où là ça baisse. 27 à Lorient et à Boulogne-sur-Mer, 26 à Caen et Quimper, 24 degrés à Saint-Brieuc et à Cherbourg, on respire. 23 à Brest, pourquoi ? Parce que les orages sont déjà passés dans le nord-ouest et sur la Bretagne en particulier. On a encore des coups de tonnerre ce matin sur le Finistère. Cet après-midi, les orages vont se décaler pour toucher la Basse-Normandie et arriver sur l'Île-de-France en début de soirée. Sur l'Est, c'est encore très chaud et très ensoleillé.
Anissa, merci. Bienvenue à tous sur Europe 1, 5h30.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h. Alexandre Lemaire.
L'information de la nuit, d'abord l'Iran sous les bombes d'Israël, la capitale Téhéran, plusieurs villes iraniennes secouées cette nuit par une série d'explosions, des frappes préventives sur des sites nucléaires, indique Israël, qui a déclenché l'état d'urgence après cette série d'attaques sans précédent. Selon les informations d'Europe 1, l'Iran était sur le point de produire 9 bombes atomiques et toujours selon nos informations, le chef des gardiens de la révolution iranienne figure sur la liste des hauts responsables éliminés dans cette série de frappes. Dans l'actualité également, le meurtre d'une surveillante par un collège à Nogent. Une marche blanche va s'élancer à 18h ce soir devant les grilles du collège Françoise Dolto. Son meurtrier présumé dort en prison depuis hier. Et puis c'est une information européen, la hausse vertigineuse du proxémétisme des cités. Le nombre d'affaires a décuplé en 10 ans. Des mineurs, dans la majorité des cas, 15 000 mineurs livrés à la prostitution par les barons du narcotrafic. Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Israël a mis sa menace à exécution. Son aviation a bombardé l'Iran cette nuit. Opération Force du Lion qui a ciblé plusieurs villes, dont la capitale Téhéran. Frappe préventive contre des installations nucléaires, indique l'État hébreu. Les États-Unis avaient pourtant appelé à laisser une chance aux négociations. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Washington. Comment réagit la Maison-Blanche ce matin ?
Les États-Unis ne sont pas impliqués dans l'attaque israélienne sur Téhéran. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio l'a annoncé peu de temps après les frappes. Selon lui, l'État hébreu aurait prévenu que son action était, je cite, « nécessaire pour sa défense ». Marco Rubio a également ajouté que la priorité absolue des États-Unis était désormais de protéger ses troupes postées au Moyen-Orient. Plusieurs bases militaires américaines se trouvent en effet à moins de 500 km de Téhéran. L'Iran ne doit pas prendre pour cible les intérêts ou le personnel des États-Unis, a averti Marco Rubio. Pour le moment, l'administration américaine s'est abstenue de commenter les frappes en bien ou en mal, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles représentent un sacré revers pour Donald Trump. Hier, le président américain avait assuré que tout son gouvernement était engagé dans des négociations avec l'Iran et qu'un accord sur le nucléaire iranien était probablement proche. De nouvelles négociations entre Américains et Iraniens sont d'ailleurs en théorie prévues à Oman dimanche. Et c'est pour cela que Trump ne voulait surtout pas qu'Israël frappe l'Iran. « Je pense que cela ferait tout capoter », avait-il déclaré à plusieurs médias américains. Le président américain a d'ores et déjà annoncé une réunion de son Conseil de sécurité nationale un peu plus tard aujourd'hui.
Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Ces attaques contre les sites militaires et nucléaires iraniens dureront autant de jours que nécessaire. C'est ce qu'assure le Premier ministre Benjamin Netanyahou. L'Iran, de son côté, promet de réagir fortement. Nous serons en direct de Tel Aviv avec le correspondant d'Europe 1 sur place dans le journal de 6h. Risque d'embrasement généralisé qui fait bien sûr réagir les marchés. Les cours du pétrole s'envolent ce matin, plus 10% pour le Brent et le WTI.
Dans l'actualité internationale également, Christophe, le dernier bilan officiel du crash du Boeing d'Air India en Inde, il s'élève à au moins 265 morts.
Un seul survivant identifié parmi les 242 personnes à bord, ce miraculé est britannique. Il occupait le siège 11A. À ce bilan très lourd, il faut ajouter une vingtaine de morts supplémentaires. Les résidents d'immeubles éventrés par l'appareil appareil lorsqu'il s'est écrasé. En République dominicaine, les propriétaires de la discothèque dont l'effondrement avait fait 236 morts en avril dernier ont été interpellés. Ils sont accusés d'homicide involontaire.
Vous écoutez Europe 1, bonjour, il est 5h33.
Cette information Europe 1 que nous vous donnions en titre, les narcotrafiquants investissent un nouveau marché, celui du proxénétisme de proximité.
Et on l'appelle aussi le proxénétisme de cité. Il s'agit de jeunes femmes mineures, exclusivement françaises et principalement issues des quartiers. Leur nombre, au moins 15 000. Toutes sont exploitées par des narcotrafiquants à la recherche de nouvelles activités criminelles. William Molinier, le nombre d'affaires a été multiplié par 10 depuis 2015.
En 2015, policiers et gendarmes en comptabilisaient 21. L'année dernière, 226 enquêtes relevées du proxénétisme de cité, phénomène apparu au début des années 2010 en France. Des trafiquants de drogue qui forcent des jeunes femmes à se prostituer de ville en ville en louant des chambres d'hôtel ou des appartements sur des plateformes. 461 victimes ont été recensées en 2024, dont une majorité de mineurs, certaines même pouvant être très jeunes, 12 ans à peine. 87% d'entre elles sont françaises, selon le renseignement criminel. Les dealers cherchent à diversifier leurs activités et se sont donc lancés dans ce proxénétisme dit de proximité que l'on observe de plus en plus, y compris en zone rurale. Leur logique est purement économique. En échange d'une partie de la rémunération, ils assurent une sécurité, un logement et la prise de contact avec les clients, bien souvent sur Internet grâce à des petites annonces diffusées sur les réseaux sociaux. Le nombre de mineurs qui se prostituent en France est estimé à 15 000 par le secteur associatif, mais le chiffre réel est sans doute beaucoup plus élevé selon les acteurs de la lutte contre le proxénétisme.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
À Nogent, en Haute-Marne, une marche blanche est prévue ce soir à la mémoire de Mélanie, cette surveillante de collège mortellement poignardée mardi matin par un élève.
Marche blanche qui s'élancera à 18h, rassemblement devant les grilles du collège. C'est là que Mélanie a perdu la vie après avoir été poignardée à 7 reprises par un élève. De nombreux Nogentais, toujours sous le choc, ont prévu de se joindre au cortège. Reportage Mélina Fachin, envoyée spéciale d'Europe 1 Haute-Marne.
Devant le collège de Nogent, où les bouquets de fleurs continuent à s'accumuler, Daniel a encore la gorge nouée.
Je vais tout faire pour y aller.
Cette maman de deux filles scolarisées dans l'établissement n'a pas hésité une seconde. Elle participera ce soir à la marche blanche en hommage à Mélanie.
Parce que c'est important d'être là pour que la famille soit soutenue et puis qu'ils voient que c'était une surveillante très bien, quoi. Très à l'écoute, très douce, et puis mes filles l'aimaient beaucoup.
Cette autre maman d'élève, stupéfaite par ce drame en pleine campagne, sera également présente.
En la mémoire de Mélanie, et puis il faut que ça s'arrête en fait. À un moment donné, il faut vraiment que ça s'arrête.
Floriane peine à retenir ses larmes, elle qui travaille dans une autre école des environs.
Je me dois d'y être parce que c'est toute l'éducation nationale malheureusement qui est touchée, et je vais faire en sorte d'avoir l'accord de mon directeur parce que nous sommes tous touchés et nous sommes tous concernés.
Mélanie était maman d'un garçon de 4 ans et avait une très grande famille. Beaucoup de ses proches vivent dans les environs. La marche blanche de ce soir promet donc de rassembler énormément de monde. Nogent, Mélina Fachin, Europe 1.
Et le collégien de 14 ans qui a mortellement poignardé cette surveillante a été mis en examen pour meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public. Il a été placé en détention provisoire du fait de sa minorité. La peine maximale encourue est ramenée à 20 ans de prison.
C'est peut-être le début d'une fronde, Christophe. Plusieurs pays européens partent en guerre contre la Cour européenne des droits de l'homme.
La CEDH, si l'on se contente de la résumer à son abréviation, 9 pays frondeurs avec en guise de locomotive le Danemark et l'Italie. Ces États veulent pouvoir appliquer leur politique migratoire sans risque d'être entravés par le droit européen. Leurs dirigeants ont publié récemment une lettre en ce sens, Mayalène Trémollet.
C'est une lettre dans laquelle ces 9 pays dénoncent 2 points majeurs. D'une part, un texte désuet, écrit en 1953 pour prévenir des régimes totalitaires et donc non adaptés à la question migratoire actuelle. Et d'autre part, l'interprétation trop importante de certains articles par les juges de Strasbourg, comme le numéro 3 par exemple, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants, compris selon ces pays, de manière trop extensive. L'Italie brandit ainsi l'épisode marquant de Lampedusa, lorsque la CEDH avait dénoncé le placement de centaines de migrants en détention, qualifiant l'initiative de privation de liberté illégitime, tandis que Rome avait plaidé la nécessité d'urgence face au déferlement soudain de migrants sur l'île. Concrètement, cette coalition appelle désormais à rouvrir le texte de la Convention pour limiter les possibilités d'interprétation par la CEDH, une initiative qui acte la bascule prise par plusieurs pays européens ces dernières années, qui réclament plus d'indépendance en matière migratoire, quitte à se confronter aux plus hautes instances européennes.
Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Les sports, le cyclisme, total suspense sur le critérium du Dauphiné. À 3 jours de l'arrivée à Valsenny, 8 coureurs sont à moins de 40 secondes du maillot jaune Remco Evenepoel. Le Belge compte sur les 3 étapes alpines pour distancer 2 favoris en embuscade, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar.
Merci Christophe Lamarre, bienvenue. Si vous nous rejoignez à bientôt 6h20 sur Europe 1, dans quelques instants, Anissa Haddad y rendez-vous avec les enfants d'Europe 1.
Oui, les enfants d'Europe 1 avec un souvenir musical ce matin. Retour sur un concert mythique, le concert mythique de Johnny Hallyday au Palais des Sports. C'était le 13 juin 1967.
Vous retrouvez d'abord les pronostics du Quintet. Thierry Léger, bonjour.
Bonjour Alexandre, c'est en nocturne à 20h15 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes que va se courir ce Quintet. Une course aux 3 athlées qui réunira 16 trotteurs âgés de 7 et 8 ans sur la distance de 2100 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart et priorité aux concurrents s'élançant en première ligne avec les numéros 4, Hôtel Mystique, qui vient d'échouer du minimum à ce niveau et sur ce tracé de vitesse le 6 juin à Vincennes, 8, Ideal Boy, qui reste sur 2 probantes performances en province, à Vire puis à Châteaubriant, et visiblement au mieux de sa forme pour son retour à Vincennes, 1, Indien de Fontaine, en plein boom actuellement, puisqu'il totalise 2 victoires et 1 seconde place lors de ses 3 dernières courses, et 7, Ibis Quick, certes plus connu sur les hippodromes provinciaux, mais qui pour moi a largement les aptitudes pour réussir à Vincennes. Enfin, les numéros 16, Easy Boy de Cinglet, 9, Indocile, 3, Isolt Flower et 15, Iron d'Espoir compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, 8, 1, 7, 16, 9, 3 et 15.
Merci Thierry Léger.
Et vous retrouvez dès maintenant tous les pronostics de Thierry Léger sur l'appli Europe 1 et sur europe1.fr.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Les enfants d'Europe 1.
Avec vous, Laure d'Autriche, bonjour.
Bonjour à tous.
Ce dimanche 15 juin qui arrive, Johnny Hallyday aurait eu 82 ans. Alors avec les archives Europe 1, retour ce matin sur un concert mythique de Johnny. Il a à l'époque 24 ans, nous sommes en 1967 au Palais des Sports de Paris et ce concert est diffusé en direct sur Europe 1.
Oui, le concert devait avoir lieu à l'Olympia où est enregistrée l'émission d'Europe 1 Musicorama, mais la salle est trop petite pour Johnny. Au Palais des Sports, 7000 personnes attendent l'idole des jeunes qui arrive sur scène en pantalon doré, ultra collant et chemise de satin. Du grand spectacle, 150 bombes de confettis, des canons qui lancent 10 000 fleurs et 1 tonne de pop-corn dispersées dans la foule. Alors qu'en cette année 67, la guerre des 6 jours vient de commencer, Johnny modifie les paroles de sa chanson « Hey Joe, le Vietnam la bombe » devient « Israël la bombe ».
Hey Joe, Israël la bombe, tu t'en fous de tout ça ?
Après l'entracte, Johnny réapparaît pour mettre le feu avec Noir c'est noir. Il finit le concert en fracassant sa guitare avant d'en jeter les débris à la foule. Johnny est un homme spectacle, lance Jacques Brel en 68.
Hallyday fait merveilleusement un métier, mais pour, je pense, des gens jeunes. Presque obligatoirement jeune. Enfin.
Et 35 ans plus tard, sur Europe 1, Johnny Hallyday revient sur ce concert de 67 qui a marqué sa vie.
C'est ce fameux concert où tous les sièges ont été détruits dans la salle du Palais des Sports, où il y a une polémique. Faut-il pas interdire les spectacles de rock'n'roll en France? Le rock'n'roll amène la violence.
Les queues, quand il vous arrive, oh oui!
En 67, un enregistrement immortalise ce concert au Palais des Sports. Au dos de la pochette du vinyle, on peut lire « Jamais encore un disque possédant un tel punch n'avait été réalisé ». Et pourtant, à ce moment-là encore, Johnny pensait qu'il ne durerait pas plus d'un an ou deux parce que le rock'n'roll était trop éloigné de la chanson française en vogue à l'époque.
Merci Laure d'Autriche. Voilà pour cet hommage à Johnny Hallyday, dont c'est l'anniversaire ce dimanche qui arrive. On rendra hommage encore à Johnny avec un autre de ses concerts mythiques. Ce sera tout à l'heure à 6h20 sur Europe 1 avec Combine Roche. On se souviendra de son concert géant qu'il avait donné en l'an 2000 pour ses 40 ans de carrière sous la Tour Eiffel. C'est l'heure de jouer à présent avec les enfants d'Europe 1. Anissa Dadi, encore une chance, allez, cette semaine, de remporter un très beau cadeau.
Encore une chance, mais la dernière, et Alexandre. La dernière. Et nous sommes vendredi 13, donc s'il y a bien un jour où il faut tenter votre chance, c'est aujourd'hui. Nous vous offrons un séjour de 2 nuits à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien, Relais Château. Alors je vous conseille d'aller voir les photos, c'est splendide. C'est une oasis méditerranéenne nichée au milieu des jardins fleuris, de l'eau. Cet établissement 5 étoiles, s'il vous plaît, on ne fait pas les choses à moitié, vous offre à la fois confort, élégance et détente. Le spa marin, il est placé sur le rooftop, sur le toit, donc imaginez la vue en plus de la relaxation. Et on a réservé pour vous 2 soins d'hydrothérapie par personne. Le restaurant étoilé L'Allemandin et son chef Frédéric Baquier vont régaler vos papilles avec une gastronomie inspirée de la richesse du terroir et du bassin méditerranéen. Rendez-vous sur hotel-île-lagune.com pour rêver.
Mais pour tenter votre chance, à présent la question du jour, chers auditeurs. Dans quelle salle parisienne Johnny Hallyday a-t-il triomphé en 1967? Il s'agissait, réponse A, du Palais des Sports, réponse B, du Palais des Congrès.
Bon allez, c'est le jour ou jamais. Pour tenter votre chance en ce vendredi 13, vous envoyez Thalasso par SMS au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS, vous répondez à la question du jour. Et chaque jour, un gagnant est tiré au sort parmi les inscrits et remporte un abonnement au JD News, votre magazine d'actualité en kiosque tous les mercredis. Félicitations ce matin à Romain qui habite Hohenheim.
En Alsace, exactement. Allez, bonne chance à tous.
Il est 5h44 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, c'est Yann Brossat, sénateur communiste de Paris.
Bonjour Yann Brossat.
Bonjour.
Reprise des cours douloureuse hier au collège Françoise Dolto de Nogent en Haute-Marne, où une surveillante a été mortellement poignardée par un élève de 14 ans. Une marche blanche est prévue aujourd'hui en fin de journée. Est-ce qu'avec les annonces de l'exécutif, Yann Brossat, on va au moins à l'avenir limiter le risque que ça recommence?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet événement est monstrueux. Et je pense que les Français ont été extrêmement choqués qu'un tel assassinat puisse avoir lieu dans un établissement scolaire. Le gouvernement a fait des annonces. Ce qu'il faut surtout, à mon sens, c'est réfléchir à 2 choses. D'abord, à la situation de notre école. On a une école, particulièrement une école publique, qui a été considérablement fragilisée ces dernières années, avec un manque d'adultes dans les écoles. On a en moyenne aujourd'hui, par exemple, une assistante sociale scolaire pour 1500 élèves. C'est beaucoup trop peu. Et donc, on a besoin, je crois, de réinvestir beaucoup plus dans notre école publique et dans notre jeunesse. Et par ailleurs, il y a des enjeux majeurs autour de la santé mentale des enfants. C'est un sujet qu'on aborde de plus en plus depuis le confinement. Et manifestement, on a aujourd'hui besoin d'y travailler beaucoup plus sérieusement, au-delà des polémiques politiques qu'il peut y avoir, parce qu'on ne peut pas s'habituer au fait que des crimes pareils aient lieu dans l'enceinte de l'école qui devrait être un sanctuaire.
Se préoccuper de la santé mentale, sans doute, il faut aussi punir davantage, Yann Brossat, dès le premier écart.
Bien sûr qu'il faut punir. Il ne s'agit pas de dire que la sanction n'a pas sa place. Évidemment qu'on a besoin de punir. Vous savez, j'étais enseignant pendant de nombreuses années à Sarcelles, en banlieue parisienne. Quand des élèves ne font pas ce qu'ils sont censés faire, il y a besoin de sanctions. Simplement, en l'occurrence, on parle d'un élève qui choisit de tuer alors qu'il a des gendarmes en face de lui. Manifestement, la peur de la sanction, il savait qu'il serait sanctionné. Une fois de plus, les gendarmes étaient présents. On a là quelque chose qui dépasse la menace de la sanction. Et donc c'est la raison pour laquelle, à ce niveau-là de gravité, on a quand même un sujet de santé mentale qui doit être abordé.
Yann Brossat, Rima Hassan rentre en France, l'eurodéputée insoumise qui a été expulsée d'Israël après avoir tenté d'atteindre Gaza à bord d'un voilier. Alors sur le plan humanitaire, elle savait qu'elle allait à l'échec. Sur le plan de sa communication, elle peut mesurer son succès désormais.
Toute cette polémique m'intéresse assez peu. Le fond de l'affaire, c'est la décision du gouvernement israélien depuis maintenant des mois de bloquer l'accès à l'aide humanitaire pour la population de Gaza. Et donc, si j'en veux à quelqu'un dans cette affaire, s'il y a une responsabilité dans cette affaire, elle en revient au gouvernement israélien, celui de Benjamin Netanyahou, qui dirige un gouvernement d'extrême droite qui se conduit d'une manière sauvage et barbare vis-à-vis de la population palestinienne. En l'occurrence, cette flottille visait à mettre en lumière scandale que constitue ce blocage de l'aide humanitaire. C'est ça le fond de l'affaire.
Non mais d'accord, mais alors, il est entendu naturellement, Yann Brossa, que la population palestinienne a besoin d'aide et vite, de soins et de vivres. Mais que va changer cette opération pour les Palestiniens ? Rien du tout.
Bah, elle a en tout cas permis de mettre en lumière le scandale que constitue le blocage de l'aide humanitaire. On a affaire à un gouvernement qui se conduit de manière particulièrement barbare. Enfin, quand même, bombarder les Palestiniens comme ils le font, faire 50 000 morts parmi eux, des femmes, des enfants, des populations civiles, et en plus de ça, bloquer l'aide humanitaire. Enfin, où accepterions-nous qu'un gouvernement se conduise de cette manière-là ? Depuis quand on accepte de garder sur le banc de la communauté internationale un gouvernement, un État qui se comporte d'une telle manière ? Et donc, tout ce qui contribue à mettre en lumière, à mettre en exergue cette situation est, de mon point de vue, bon à prendre. Mais surtout, on a besoin maintenant que la France fasse entendre sa voix, à la fois en reconnaissant l'État de Palestine, et j'avoue que je suis un peu surpris des derniers revirements de la parole du gouvernement sur ce sujet, et par ailleurs, de sanctions concrètes contre le gouvernement israélien. Tant qu'on ne sanctionnera pas le gouvernement israélien au porte-monnaie sur le plan commercial, il pourra continuer en toute impunité. Et ça, du point de vue des valeurs humanistes qui devraient animer la France, ça n'est pas supportable.
La crise du logement, Yann Brossa, vous portez une proposition de loi pour pérenniser l'encadrement des loyers. Elle vient d'être déposée au Sénat et à l'Assemblée. 72 villes concernées. Il faut rappeler qu'effectivement, l'encadrement des loyers, pour l'instant, ce n'est qu'une expérimentation et qui doit prendre fin à la fin de l'année prochaine.
Absolument, et je vous remercie de me poser cette question parce que c'est un sujet qui est fondamental. Dans une ville comme Paris, nous avons l'encadrement des loyers depuis 2019 et il a permis une relative stabilité des loyers. Avant l'encadrement des loyers, avant que les loyers soient plafonnés, on a eu, au cours des 20 années précédentes, un doublement, plus qu'un doublement, c'était x2,5 du niveau des loyers. Et grâce à l'encadrement des loyers, nous avons pu limiter cette hausse. Et donc très concrètement, si l'encadrement des loyers s'arrête en novembre 2026, je l'annonce très clairement aux Parisiens, les loyers vont littéralement exploser.
Aux Parisiens et pas seulement.
Aux Parisiens, pour ce qui me concerne, puisque je suis
pour ce qui vous concerne, vous êtes sénateur de Paris.
Vous avez raison. À l'ensemble des habitants qui vivent dans ces 72 villes où l'encadrement des loyers s'applique aujourd'hui, dans une période de difficulté de pouvoir d'achat, où beaucoup de locataires consacrent une part considérable de leurs revenus au paiement de leur loyer, ce serait absolument désastreux. Donc oui, j'ai déposé une proposition de loi qui vise à pérenniser l'encadrement des loyers pour qu'ils puissent continuer au-delà de novembre 2026.
Alors dites-moi si je me trompe, vous n'avez pas les Insoumis avec vous, je crois, dans cette démarche. Ils vous ont dit pourquoi ?
Je ne crois pas leur avoir posé la question. En tout cas, je n'ai aucun doute sur le fait que cette démarche puisse rassembler. Et d'ailleurs, je vous le dis aussi, je souhaite qu'elle puisse rassembler au-delà de la gauche. Moi, je pense que quand on est élu, on est confronté à des habitants qui payent des loyers trop chers. Et même quand on est de droite, on a le droit de se préoccuper de ça. Et d'ailleurs, je vois que des communes plutôt de droite, dans le Pays Basque en particulier, mettent en place l'encadrement des loyers. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose de pragmatique. Quand on a des niveaux de loyers qui sont délirants, on a besoin de remettre un peu d'ordre et l'encadrement des loyers y contribue.
Merci Yann Brossa.
Merci à vous.
Sénateur communiste de Paris, ce matin sur Europe 1.
Très bon début de journée avec Europe 1. Il est 5h51. Alexandre Lemaire.
À suivre, le Club Culture Europe 1 avec le livre audio de la semaine qui vous est présenté par Nicolas Caro. C'est un roman d'une écrivaine américaine. À tout de suite sur Europe 1.
5h-7h.
Europe 1, bonjour. Geniebet.fr, site de paris hippiques et sportifs. Les meilleurs rapports sur les paris simples. Votre ticket à partir de 10 centimes et un bonus de bienvenue jusqu'à 250 euros. Et à l'occasion du prix de Diane, profitez de 10 euros de bonus hippique supplémentaire avec le code RADIO10. Voir conditions sur geniebet.fr. Mise de base à partir de 10 centimes sur la gamme de paris hors paris simple, montant minimum du pari 1 euro. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h, Alexandre Lemaire.
Europe 1, bienvenue à 6h-10, le journal permanent Christophe Lamar.
Le guide suprême iranien menace Israël d'un sort amer et douloureux. À Washington, Donald Trump va réunir un conseil de sécurité nationale dans l'après-midi. Réaction après les frappes israéliennes cette nuit sur l'Iran, plusieurs villes ciblées, dont la capitale Téhéran. Le lion qui se dresse, c'est le nom de code de cette opération qui vise les sites militaires et nucléaires iraniens. Selon les informations d'Europe 1, le régime des Mollahs était sur le point de fabriquer 9 bombes atomiques. Une marche blanche pour ne pas oublier Mélanie. La famille de la surveillante mortellement poignardée à Nogent-en-Haute-Marne appelle à se rassembler ce soir à 18h. Le cortège s'élancera devant les grilles du collège Françoise Dolto. Son meurtrier présumé, un élève de 14 ans, a été mis en examen pour meurtre. Il dort en prison depuis hier soir.
Merci Christophe. Europe 1.
Très bon début de matinée sur Europe 1. Il est 5h53. Europe 1. Bonjour Alexandre Lemaire.
Dans le club culture Europe 1, comme chaque vendredi, le livre audio de la semaine. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Alexandre.
Avec l'application Audible, cette semaine, Nicolas, vous avez choisi le roman de l'américaine Emma Klein.
The Girls, premier roman en 2016, acclamé aux États-Unis, publié dans 34 pays. Les filles en question, ce sont celles qui entouraient le tristement célèbre Charles Manson. Mais là, c'est un roman. C'est une certaine Evie Boyd qui nous raconte son histoire. Elle se souvient de la fin des années 60, quand elle était une ado californienne comme une autre, une ado de 14 ans, sans trop de problèmes, sauf ceux d'une ado. Elle est un peu paumée. Ses parents viennent de divorcer. Ils veulent l'envoyer bientôt en pension. Mais un jour d'été, dans un parc, elle remarque un groupe de filles.
Je levais les yeux à cause du rire et je continuais à regarder à cause des filles. Je remarquais leurs cheveux, tout d'abord, longs et pas coiffés, puis leurs bijoux qui captaient l'éclat du soleil. Toutes les trois étaient trop loin, je ne voyais que les contours de leurs traits, mais ça n'avait pas d'importance. Je savais qu'elles étaient différentes de toutes les autres personnes dans le parc.
Il y a la très charismatique Suzanne. Elle est immédiatement fascinée par cette fille qui a l'air si libre, si décomplexée. En fait, elle vient tout juste de rencontrer l'une des compagnes du diable, alias Russell. C'est le nom que donne l'auteur à Charles Manson dans le roman. Toutes ces filles constituent en fait son harem. Et Evie va bientôt les rejoindre. Elle est heureuse au début, Evie. Elle a l'impression de faire partie d'un groupe soudé, d'être aimée en fait, tout simplement. Et bien entendu, elle participe au culte du dieu vénéré, du gourou, c'est-à-dire Russell.
Oui. Russell qui incarne donc le criminel Charles Manson.
Oui, le terrifiant Charles Manson, condamné pour avoir commandité les meurtres de plusieurs personnes à Los Angeles, dont l'actrice Sharon Tate. C'est pas lui qui les a tués directement, il a envoyé ses filles. Pourtant, c'est toujours lui qui a fasciné les médias et les écrivains. Cette fois, dans ce roman, ce sont les filles qui tiennent le premier rôle et qui retiennent l'attention. C'est prenant, captivant, étouffant, moite, dérangeant, sensuel aussi et servi par une écriture précise, sans fioritures. C'est un livre qui bouscule.
The Girls d'Emma Klein, c'est donc disponible en livre audio sur l'application Audible. Merci, Nicolas Carreau.
Europe 1, bonjour, 5h-7h, Alexandre Lemaire.
Les nouveautés musicales avec Joe Hume chaque vendredi. Bonjour Joe.
Bonjour Alexandre, bonjour Anissa.
Alors ce matin, on va commencer par un livre que vous nous avez apporté, qui parle de musique, mais aussi de voyage.
Oui, c'est un petit peu le guide du routard de l'histoire du rock. Ça s'appelle Rock City Guide. C'est chez GM Éditions. C'est écrit par un expert parmi les experts, J.D. Beauvalet, ancien rédac-chef du magazine Les Arts Occuptibles, encyclopédie musicale vivante et un authentique globetrotter qui partage ici ses connaissances en 29 villes qui ont marqué l'histoire des musiques pop, rock et plus.
Alors, qui nous emmène où par exemple ?
Eh bien, par exemple, on part à Rennes, la ville des transmusicales, un festival essentiel qui fut entre autres le berceau d'artistes majeurs tels qu'Étienne Dao.
C'est la seule façon de rester.
J.D. Beauvalet nous relate ensuite la rivalité historique qui confronte la ville du Havre et celle de Rouen, le Havre étant une ville plus punk et Rouen celle d'un rock plus aristocratique. On franchit ensuite les frontières pour nous rendre à Kingston, d'où se sont importées les légendes du reggae, ou encore à Berlin, où durant les années 70, près du mur, s'est installée l'aristocratie rock. Je ne vais pas vous énumérer toutes les villes, mais sachez qu'on s'arrête également à Détroit, à Cologne, à Londres, à Mont-de-Marsan. Et oui, hey. Chacune de ces villes renferme des secrets, des histoires fascinantes. Le livre nous donne envie d'aller partout. Et je précise enfin que chaque ville est illustrée par Frédéric Pelletier, qui a entre autres storyboardé l'intégralité des cérémonies d'ouverture et clôture des derniers Jeux Olympiques de Paris 2024 d'été, dans un élégant noir et blanc. C'est vraiment un très bel ouvrage.
Ah oui, dites-moi, ça a l'air passionnant ce Rock City Guide ou City Guide.
Absolument, et ça sort aujourd'hui chez GM Éditions. Bon, après la lecture, on écoute un petit peu de musique, plein de nouveautés en ce moment. Le retour gagnant de Vanessa Paradis avec son single Bouquet Final. Le groupe Queens of the Stone Age qui sort ce matin un live enregistré, figurez-vous, dans les catacombes de Paris. Ça, ce sera peut-être une histoire pour un futur Rock City Guide. Et puis, un petit plaisir, le groupe suédois Royal Republic qui dépoussière un tube de compétition que vous connaissez forcément, Venus, des Shocking Blue. Et ben, voyez, avec des guitares, ça fonctionne aussi très bien. C'est complètement disco-rock. C'est un groupe génial sur scène, hein, Royal Republic. D'ailleurs, il joue ce soir au festival God Save the Queen pour nos amis de Bretagne, oui. À Pomerac. Et puis, après ça, ils monteront sur scène. Ce sera au Hellfest le 20 juin, vendredi prochain. Donc. Et puis, je vous ai gardé un peu de douceur pour la fin quand même. Le français de Herman Dunne, désormais établi en Californie. Il sort aujourd'hui l'album parfait pour glander au soleil ce week-end, Odysseus. Le Rock City Guide, Vénus par Royal Republic et le nouvel album de Herman Dunne. Ce sont mes trois recommandations pour ce 13 juin.
Alors, au soleil ou à l'ombre, hein. Attention aux grosses chaleurs, Anissa, vous allez nous rappeler dans un court instant. Merci,
Joe. On va écouter ça, mais à l'ombre.
Exactement.
Avec beaucoup d'eau.
Plutôt à l'ombre et au frais, oui.
Très bon début de journée avec Europe 1, avec Alexandre Lemaire qui vous accompagne jusqu'à 7h.
Votre météo arrive donc dans un instant, Anissa Dadi. Dans la prochaine demi-heure, rendez-vous avec Omblin Roche. Bonjour, Omblin.
Bonjour, Alexandre. Bonjour, Anissa. Bonjour à tous.
Dans votre partition à 6h20.
Retour ce matin, le 10 juin 2000. Ce jour-là, Mary Pierce remporte Roland-Garros et Johnny Hallyday se produit au pied de la Tour Eiffel. Concert gratuit, grandiose. Pour ses 40 ans de carrière, Johnny Hallyday dans la partition dans 20 minutes sur Europe 1.
A tout à l'heure, Omblin Roche. Après le journal de 6h sur Europe 1, Stéphane Bern vous présente le thème de son émission aujourd'hui au cœur de l'histoire. 6h15, Anissa Dadi, l'édito de Laurent Tessier.
Et trois jours après le meurtre de Mélanie, cette surveillante d'un collège à Nogent, les réponses de la classe politique sont-elles à la hauteur ? Non, nous dira Laurent Tessier.
Avant de retrouver le journal de 6h, le temps pour ce vendredi 13 juin, Anissa, avec de grosses chaleurs au programme. Attention également aux orages violents en fin de journée.
Oui, alors il y a trois régions, oui, qui sont particulièrement touchées par les orages aujourd'hui. La Normandie, les orages arrivent en deuxième partie de journée et ils seront violents du côté de la Basse Normandie, sur l'ouest de l'Île-de-France, entre l'ouest de l'Île-de-France et la Picardie, et puis du côté du Pays Basque, à l'intérieur des terres, dans les terres du Pays Basque. Alors là aussi, les orages pourraient être forts. Ça, c'est pour cet après-midi. Ce matin, c'est relativement calme. On a quelques coups de tonnerre sur le Finistère et on a surtout deux Frances très différentes. Vous allez tirer une ligne qui va de Bordeaux à Charleville-Mézières. Au nord de cette ligne, vraiment sur le grand quart nord-ouest du pays, entre les Pays de la Loire et les Hauts-de-France, c'est un petit peu plus nuageux avec un risque d'averse sur les Pays de la Loire et la Bretagne. Partout ailleurs, c'est très ensoleillé, très chaud. Et cet après-midi, on va garder cette France coupée